On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brut, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 25, jouer pour apprendre au collège. Jouer, est-ce vraiment sérieux? Dans sa classe de 5e à Trignac, Ségolène propose à ses élèves une approche d'apprentissage par le jeu. Avec un jeu de 7 familles revisitées, l'enseignante encourage les moments d'autonomie, le droit à l'erreur et la collaboration entre ses élèves afin de les engager au mieux dans les apprentissages. Jouer pour apprendre, est-ce bien sérieux? Alors c'est ce qu'on va voir avec Ségolène qui nous a accueillis dans sa classe, dans ses classes. Vraiment merci Ségolène. Bonjour à toi.
Bonjour Nathalie, et c'est avec plaisir.
Vous avez été chercher la règle du jeu aussi? Parce que c'était marqué d'aller chercher le jeu et la règle du jeu. Je vous laisse la lire et puis ensuite je reviens vous voir pour vous vérifier que vous avez bien tout compris la règle.
Alors je te repose la question, jouer, est-ce bien sérieux?
Écoute, ça dépend comment tu fais jouer les élèves. Et si tu les fais bien jouer, alors ça peut être vraiment sérieux.
Allez, vous vous installez, vous sortez vos affaires.
Qu'est-ce qui t'a mis en mouvement, toi, sur ce sujet du jeu éducatif, de jouer pour apprendre, apprendre en jouant? Voilà, comment tu t'es mis en mouvement?
Moi, déjà, je suis joueuse. J'aime jouer, j'aime le jeu. Et j'ai découvert l'année dernière qu'en fait, lors de mon année de stage, j'avais créé un jeu pour les élèves que j'avais en responsabilité à ce moment-là. Je ne m'en souvenais plus. Donc voilà, je peux dire que j'ai toujours eu l'intuition et l'envie de faire jouer mes élèves pour apprendre. C'était vraiment spontané. Et puis avec le temps, avec la pratique, donc moi ça fait depuis 2010 que je suis ici au collège Julien Lambeau à Trignac, un établissement REP, je me suis rendu compte que c'était un super bon levier pour engager mes élèves dans les apprentissages. C'est des élèves qui ont du mal en fait à passer à l'écrit, à s'engager, et donc le jeu pour moi c'était un peu une évidence en fait.
On va relire les problèmes qu'on se pose dans ce chapitre. Qui est-ce qui veut lire les problèmes en ouvrant le plan de travail? Vas-y. Alors, premier problème qu'on se pose, y a-t-il bien un réchauffement climatique? On va essayer de donner des preuves pour prouver qu'il y a bien un réchauffement.
Est-ce que tu saurais nous présenter en quelques mots ce qu'est un jeu pédagogique?
Il y a le côté jeu, donc prendre du plaisir à. Normalement, le jeu, ça n'a pas d'utilité. C'est simplement passer un bon moment, prendre du plaisir. Et donc, le jeu pédagogique, c'est garder cette notion de plaisir et de moment agréable, mais en y ajoutant un travail autour de notions ou de compétences qu'on veut développer avec les élèves.
Est-ce qu'il y a des grandes catégories de jeux pédagogiques?
Je dirais non, a priori. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux pédagogiques qui existent. On peut détourner des jeux existants. Là, tout à l'heure, on évoquera certains jeux que j'ai détournés. On peut créer même des jeux qui sont sur aucune base, qui viennent simplement de notre imagination. Après, on peut opposer numérique et présentiel. On peut opposer jeux coopératifs et jeux compétitifs. Mais en individuel ou en groupe. Mais en fait, non, il n'y a pas vraiment de catégorie en fait, de jeux.
Est-ce que la catégorisation, on peut la faire selon l'objectif cognitif qu'on poursuit sur un jeu? Est-ce que si c'est pour mémoriser, si c'est pour découvrir? Je ne sais pas. C'est une vraie question ouverte.
Alors, moi je fais partie de la Team Ludens, donc c'est un collectif de profs qui mettent les élèves aux manettes des apprentissages, c'est un peu notre slogan, et on fait souvent des temps d'accompagnement de collègues, on fait des petits webinaires, et c'est vrai que plutôt que de catégoriser, en tout cas on explique que le jeu il a plusieurs places dans une séquence pédagogique. Donc il peut arriver en découverte des notions. Moi j'aime bien utiliser l'escape game par exemple à cette place-là. Je trouve que ça permet après tu vois de retricoter à partir des indices toute la leçon, tout le chapitre, qu'on va dire, ah mais vous rappelez, on avait fait ça dans l'indice, et puis ah oui, il fallait faire ça, et hop, on amène comme ça quelque chose d'un peu plus scolaire à partir de cette expérience de jeu. Le jeu peut venir, tu l'as dit, pour mémoriser. Donc là, à ce moment-là, il est moins difficile de s'assurer que c'est un jeu sérieux, puisque en fait, les notions ont déjà été travaillées, c'est simplement de la mémorisation. Le jeu peut venir en renforcement, une fois qu'on a découvert quelque chose, pour faire du lien. J'utilise beaucoup de jeux aussi en fin de chapitre. Une fois que les élèves ont vu plusieurs activités, qu'ils ont travaillé sur plusieurs petites notions, pour donner du lien entre tout et voilà, avoir une vision d'ensemble. Le jeu peut venir alors, en évaluation aussi. Dès l'instant où l'élève n'est pas au courant qu'il va être évalué, parce que sinon ça enlève un peu le côté plaisir du jeu, si on sait qu'il y a cette épée de Damoclès de l'évaluation. Mais par contre, c'est une bonne évaluation pour l'enseignant, évaluation diagnostique en début d'année. Un jeu coopératif en début d'année, c'est hyper bien pour avoir une vision de la classe, des élèves, des interactions entre eux. Ça en dit beaucoup, quoi.
Bon, en gros, chacun à tour, on va demander une carte dans la famille, ce qu'on a bien sûr. Et celui qui a la carte, il dit, il pose la question qui est sur la carte. Et si l'élève qui a demandé la carte, il répond à la bonne question, bah, on peut lui donner la carte. Il continue.
Ok, qui c'est qui commence ?
J'en profite du coup pour parler d'un article que tu nous as fait la joie de partager sur Être Prof. Et qui s'appelle 10 jeux pour aider les élèves à mémoriser des notions. Donc j'encourage à aller lire cet article qui donne beaucoup de pistes très très pratiques pour passer à l'action. Ok, jeu pédagogique, tu viens de le dire, ça peut avoir une place différente dans ta séquence selon l'objectif que tu poursuis. Qu'est-ce qui cadre ta réflexion ? À quel moment dans ta séance ? Est-ce que ça dure toute l'heure ? Est-ce que c'est plutôt en début, en fin ? Comment tu organises ta classe ? Voilà, toutes les petites contingences très pragmatiques qui entourent cette pratique du jeu pédagogique.
En fait, il faut prendre le jeu comme n'importe quelle autre activité qu'on pourrait mener dans sa classe. Donc, on se pose les mêmes questions que pour toute autre activité. L'étape numéro un, c'est qu'est-ce que je veux transmettre ? Mes compétences, mes connaissances, peu importe la porte qu'on prend, mais en tout cas, voilà, quel est l'objet pédagogique, qu'est-ce que je veux travailler. Une fois qu'on a défini ça, qu'on a trouvé le jeu qui permet de le travailler, il faut réfléchir à comment on va amener la règle du jeu. Est-ce qu'on va l'amener en collectif ? Est-ce qu'on va la passer en individuel pour la présenter ? Est-ce que les élèves, si on prend un jeu qui peut être numérique par exemple, est-ce que les élèves ont déjà utilisé pas mal de numérique dans la séquence ? Trop de numérique, on sait que c'est pas très intéressant. Vaut mieux varier les plaisirs. Donc voilà, on va plutôt s'orienter vers un jeu qui va être déconnecté si on a déjà utilisé le numérique. On peut jouer sur le côté coopératif ou en individuel aussi, en fonction de la dynamique de la séquence. Donc en fait, on se pose avec le jeu exactement les mêmes questions qu'on se pose à tout moment.
Alimentation numéro 2.
Tu l'as pas celui-là ?
Non.
Ok, logique, c'est moi qui ai.
Non, j'ai pas.
Alors, pour assurer la production de plus en plus importante d'huile de palme, notamment on détruit énormément de forêts alors qu'elles permettent de capter beaucoup de CO2. Comment ce phénomène s'appelle-t-il ? Comment on appelle en gros le phénomène où on enlève plein d'arbres pour faire de l'argent ?
La déforestation. Et il se passe quoi ?
On sait quoi ? Voilà, t'as la carte, voilà.
La phase à ne pas oublier, du coup, c'est la phase d'institutionnalisation. C'est-à-dire ce moment où on revient sur les jeux pour en extraire ce qui pédagogiquement est intéressant, mais comme on le fait avec n'importe quelle autre activité. On va faire le bilan, on va mettre en commun, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce que vous avez vu, et puis on va à un moment l'écrire noir sur blanc quelque part dans le cahier qui va servir de leçon en fait. Donc ça c'est un moment à ne pas négliger en fait.
Oui, oui, et là du coup tu réponds vraiment à la question et tu mets le jeu dans la case sérieux, apprentissage, c'est-à-dire que cette phase d'institutionnalisation permet vraiment de passer du jeu que plaisir à il y avait une fonction d'apprentissage au sein de la classe.
C'est hyper important de bien séparer ces deux temps-là. Parce que sinon, en fait, on enlève la partie plaisir du jeu et les élèves sont pas dupes. J'ai des collègues, par exemple, qui réutilisent certaines ressources de jeux type 7 familles en faisant noter au fur et à mesure du jeu aux élèves les familles qu'ils ont constituées. Et en fait, moi, je l'utilise jamais comme ça parce que je trouve que ça casse en fait la dynamique du jeu. Moi, je les laisse vraiment jouer et une fois qu'ils ont joué, on sort, on extrait ce qui est intéressant. Mais vraiment, pour moi, la phase de jeu, elle doit être non interrompue par l'enseignant, sauf cas de force majeure, le temps, un conflit. Mais voilà, le jeu, il faut les laisser jouer. D'ailleurs, Eric Sanchez, il dit qu'en fait, on n'apprend pas par le jeu. En fait, il dit qu'on apprend de l'expérience, du retour sur l'expérience du jeu qu'on a fait.
Merci pour cette précision. Je trouve que c'est souvent la confusion qui est faite et le mauvais procès qui est fait au jeu, justement. Ça m'évoque tout ce dont André Tricot parle sur les apprentissages primaires et les apprentissages secondaires et tous les malentendus qu'il y a autour de un enfant n'apprend qu'en jouant. Et non, c'est pas forcément vrai. En tout cas, les apprentissages à l'école, il y a besoin d'un médiateur qui est la pédagogie, qui est l'enseignant, et donc ça peut passer par le jeu. Donc merci pour ces précisions.
Énergie propre 1. Énergie propre 1.
Je l'ai. Comment appelle-t-on l'énergie produite grâce au vent ?
L'énergie éolienne, l'électricité éolienne et éolienne.
Est-ce que ça compte s'il ne dit pas bien ?
Est-ce qu'il y a des compétences travaillées qui sont au-delà des connaissances qui sont mobilisées, c'est-à-dire des compétences transverses qui sont travaillées ?
Alors, on peut décider que le jeu travaille une compétence qui n'est pas une compétence, comme tu dis, transversale. Par exemple, j'ai créé Biome. C'est un jeu que j'ai inventé pour que mes élèves découvrent comment lire un graphique. Enfin, que je sois sûre que tous mes élèves travaillent la lecture du graphique. Donc, c'est une compétence qui est travaillée par le jeu, spécifiquement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quel est l'objectif ? Notion ou compétence ? Parce qu'on peut passer des notions, mais des compétences aussi. Mais de façon générale, le jeu, ça apprend beaucoup de choses de ce qu'on appelle le métier d'élève. S'écouter, échanger, se parler, respecter les règles, avoir de la patience, attendre son tour, des choses qui ne sont pas aisées pour tous les élèves et qui, même encore en collège, demandent à certains élèves vraiment un effort. La question de la triche, hein, le respect des règles du jeu est très intéressante, hein, sur « mais il a triché » ou « mais il n'écoute pas ». Et là, c'est une façon aussi justement de travailler sur les règles du jeu dans un contexte moins formel et c'est intéressant aussi. Et puis tout ce qui est de l'ordre de l'inhibition. Enfin, on sait en fait que beaucoup de nos élèves ont des difficultés dans les apprentissages parce qu'ils n'ont pas ces capacités d'inhibition. Et donc dans le jeu, tu les travailles de fait et sans t'en rendre compte et en prenant plaisir.
Cette compétence-là fait bien partie des fonctions exécutives, sauf erreur de ma part.
C'est ça.
Avec le voiturage, ouais.
Le numéro 4 dans le transport.
Ouais. Comment limiter ton impact environnemental pour venir au collège ? Ouais, mais c'est trop facile là pour venir au collège. Mais là, elle a toutes les cartes faciles.
Vas-y, tu reposes la question.
Comment limiter ton impact environnemental pour venir au collège ?
Bah, en venant en vélo ou à pied. Sans électricité.
Quel point de vigilance donner à entendre à nos auditeurs, auditrices sur la mise en activité, les consignes, le matériel ?
Alors, déjà, le débriefing, ne pas l'oublier, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Bien réfléchir à comment on présente les règles. C'est pas toujours facile de présenter les règles du jeu et ça demande parfois nous-mêmes de tâtonner un peu, voir quelle expression va faire mouche et ils vont comprendre ce qui se passe. Respecter l'équilibre entre le ludique et le pédagogique. Par exemple, le jeu de cartes des 7 familles tout à l'heure. En fait, on demande aux élèves, je leur demande de demander une carte, mais pas à un élève précis. Mais demander la carte aux élèves qui sont présents. Parce que ça me diminue considérablement mon temps de jeu. Alors là, ce matin, ils n'étaient pas très efficaces. Hein, ils ont mis du temps à jouer, mais ça peut diminuer une partie de moitié du temps, hein, vraiment, quand on demande en général. Donc ça, c'est des petites adaptations de règles de jeu classiques qu'on peut faire pour respecter cet équilibre entre le ludique et le pédagogique. Et à l'inverse... faut pas oublier le pédagogique. C'est-à-dire qu'il y a des collègues qui font, par exemple, qui créent des jeux, des escape games, où je me dis au final, mais l'élève, qu'est-ce qu'il en a retenu, quoi ? Il faut que le fond de ce qu'on veut enseigner soit au cœur du jeu. Si c'est au cœur du jeu, ça fonctionne. Et là, par exemple, avec le 7 familles, le fait de poser la question et que l'élève entend la réponse et peut réutiliser la question, on a ce côté je mémorise en plus. Donc là, vraiment, l'élément est au cœur. Si j'avais pas fait de cette question à poser, mais que j'avais juste dit, par exemple, je sais pas, dans la famille transport, je veux, je sais pas, le train, ça serait resté. Il n'aurait pas vraiment eu de souvenir, ça serait passé vite. Donc vraiment, cet équilibre ludique-pédagogique est important et pas toujours facile à trouver. En termes de matériel, ça nécessite beaucoup de découpage, d'anticipation. Donc voilà, il faut le prendre en compte. C'est un temps de manutention qui est assez important. Souvent, je demande à mes élèves de découper quand ils sont en études. Je leur dis, bon, vous ne ferez pas un petit découpage pour moi? Voilà. Je ne plastifie rien par conscience écologique aussi. Donc, je mets sur papier cartonné. Ça, c'est des petites astuces pour les collègues. En termes de points de vigilance, tout à l'heure, je disais par rapport à l'équilibre, hein, par rapport à la séquence, quoi. Il faut faire attention que ce soit équilibré par rapport au reste de la séquence. Et puis, ne pas y accorder plus de temps que ce qu'on aurait accordé à une activité classique, j'allais dire. Donc tout compris quoi. C'est-à-dire le temps de jeu plus le temps de débriefing, il faut se dire j'ai une heure à consacrer, c'est pas grave, mon jeu peut prendre toute ma séance. Par contre, si j'ai l'habitude, j'y passe que 20 minutes, il faut que je trouve un jeu assez flash, quoi, un jeu assez rapide.
Tu leur demandes d'expliciter la différence qu'il y a avec un jeu normal.
Alors est-ce que vous avez remarqué la différence avec un jeu classique?
Tu l'utilises plusieurs fois au cours des échanges avec tes élèves. C'est quoi l'intention derrière cette question?
Comme mes élèves sont très peu lecteurs. Donc là, en fait, dans la règle du jeu, c'est si tu connais les règles du set famille, ne lis que ça, ne lis que le point 3 et 4, je ne sais plus, hein, mais de façon à ce qu'ils voient les différences avec le jeu classique, le jeu normal de set famille. Et je ne veux pas qu'ils tombent dans... en fait, je n'ai pas fait attention qu'il fallait, par exemple, demander à n'importe quel élève et non pas à un élève en particulier. Parce que s'ils n'ont pas vu cette petite subtilité, ils vont tomber dans la règle classique et donc ils vont perdre du temps. Et puis surtout, je veux leur montrer en fait l'intention aussi qui est la mienne. De dire, vous voyez, j'ai pas juste pris les règles du set famille et je vous les ai pas juste... Voilà, j'ai réfléchi et donc faites attention aux règles, ne vous laissez pas embarquer dans une règle classique. D'ailleurs, pour le jeu Biome, je l'avais pas imaginé, mais mes élèves ont tout de suite... Et c'est un jeu qui est inspiré du Uno. Et mes élèves, quand il leur restait une carte, spontanément, ils ont dit Uno. Et je leur ai dit, non, en fait, c'est... Donc du coup, je l'ai rajouté dans la règle. Quand il reste plus qu'une carte, on dit biome. Parce que, ils sont tellement imprégnés qu'ils sont allés vers la règle classique.
Parce qu'en fait, on demande à tout le monde, et celui qui a la carte, il demande la question, et s'il répond bon, il gagne la question.
Et s'il répond faux?
Il n'a pas la carte, il pioche.
Et alors, qu'est-ce que doit faire celui qui a la carte? Très important. Il doit donner la réponse. Et donc vous, si vous voulez pouvoir redemander la carte après, il va falloir essayer de la...
Mémoriser. Est-ce que un des points de vigilance, c'est de tester le jeu soi-même? Alors toi, tu es une grande joueuse, tu as peut-être l'habitude et donc l'intuition du temps que ça prend, mais...
Oui, tout à fait. Alors, il faut le tester pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il peut toujours y avoir des... Alors, il faut tester la jouabilité. Enfin, il y a plusieurs temps de test. Le premier, c'est la jouabilité. Est-ce que, finalement, le nombre de cartes ou les mécaniques qu'on avait imaginées, est-ce que ça marche, quoi? Je me suis vue déjà préparer une énigme d'un escape game et y passer 4 heures parce que le truc que j'avais imaginé, pourtant c'était une simple dissolution, enfin ça paraissait hyper simple, le petit effet waouh avec les petits papiers qui remontent n'avait pas fonctionné. Et donc pour les cartes, c'est pareil, il peut y avoir pas assez de cartes, trop de cartes, donc voilà, il y a la jouabilité. Et puis après, faut aussi le tester pour voir si l'objectif pédagogique est atteint. Donc voilà, donc selon les jeux et l'expérience du concepteur, ou de l'utilisateur, parce qu'on peut aussi réutiliser des jeux que les collègues ont fait, hein. Il y a plein de collègues qui mettent à disposition leurs jeux, donc faut en profiter. Il faut plus ou moins tester, c'est-à-dire pour aussi prendre en main, se faire la main, bien être sûr de connaître tous les recoins du jeu, ne pas se retrouver face à une question d'élève, en fait, sur le coup on dit mince, en fait je sais pas du tout, là j'avais pas pensé à cette étape ou à cet élément du jeu, je sais pas trop, parce que là du coup ça peut casser une vraie dynamique de jeu si les élèves sont bloqués et que l'enseignant a pas de réponse à apporter. Ce qui va être différent d'un coup où il y a un élève qui pose une question où tu n'as pas la réponse, tu peux dire écoute, je chercherai, je te dirai ça. Là, dans le cadre du jeu, ça casse tout de suite la dynamique s'il y a une interruption. Donc oui, tester, et puis anticiper parce qu'il y a la question matérielle qui peut prendre du temps. Les collègues sont en général ravis de tester. Hein.
Très bien.
Non, c'est vrai, le midi ouais. Après le repas, au café, souvent je dis tiens, j'ai un jeu, qui veut jouer? Comme il y a le côté plaisir du jeu, en général, si l'équilibre ludique pédagogique est bien respecté, mes collègues passent un bon moment et donc ils adorent quand j'ai des jeux à tester.
Voilà une manière de collaborer avec ses collègues. Tu parles très souvent dans tes interactions avec tes élèves de problèmes. Tu leur parles de problèmes.
Et enfin, le dernier problème, tiens Romy, c'est quoi le dernier problème du plan de travail? En bas, à droite.
Est-ce que tu nous présentes cette manière de faire?
Je suis enseignante de sciences, hein, donc la problématisation, elle est au cœur de... Alors, je ne devrais pas dire ça, hein, puisqu'on devrait fonctionner comme ça aussi dans d'autres disciplines, mais pour donner du sens aux apprentissages, il faut les faire partir sur un problème. Il faut les engager dans ça. Donc je pars souvent d'un problème. D'ailleurs, tous mes chapitres commencent par une longue phase de problématisation avec les élèves. Et souvent aussi une phase de captation des représentations initiales. Et donc à partir de ça, on se pose des questions et on garde le fil en disant oui, c'est bien ça qu'on cherche à trouver. On se pose ces questions-là. Donc c'est très important, hein, la problématisation en sciences. Et c'est aussi un des écueils de d'autres formes de pédagogie active, hein, le plan de travail, où on occulte cette partie-là qui pour moi, elle est fondamentale en tant que prof de sciences. Et en tant que prof, en général, j'ai envie de dire, je pense qu'il n'y a rien qui suscite le plus la motivation des élèves que de se dire « Putain, mais ça, c'est vrai, je ne sais pas du tout comment ça se passe, quoi. Comment ça se passe, en fait ?» Et ils ont envie de chercher, et c'est la motivation intrinsèque, et on a touché à quelque chose qui est un vrai moteur.
Et au moins, on sait à quoi aller le rattacher, finalement, dans son cerveau. On n'apprend pas pour apprendre, on apprend pour résoudre quelque chose, pour aller vers plus de curiosité. Mais l'apprentissage n'est pas au service de lui-même, il est au service de quelque chose d'autre.
Et puis, si on est dans le tissage, hein, on parlait de pédagogie comme ça, hein, où il y a du tissage.
Dans le numérique, le 5.
Numérique 5.
C'est moi qui l'ai.
Mais vas-y, pose la question.
Comment limiter la consommation énergétique de la box internet à la maison?
Oh, je sais pas. Non, je sais pas.
Bah, dis une réponse, vas-y, au pif.
Attends, répète la question.
Comment limiter la consommation énergétique de la box internet à la maison?
Tu l'enlèves.
Non.
C'était quoi la réponse du coup?
On peut utiliser un programmateur qui éteint la box la nuit quand personne ne s'en sert.
Allez, je vais utiliser... Ma question va peut-être tomber à côté, mais tu corriges? Le corrige, je l'ai mis entre guillemets sur ma fiche de questions.
Alors ça dépend quoi? Ça dépend comment? Déjà, pendant la phase d'institutionnalisation, on va corriger certaines choses. Mais il y a certaines choses qui ne se corrigent pas, qui est de l'ordre de l'expérience de jeu. Par exemple, là, dans le jeu de cette famille, je regarde ce qu'ils ont proposé, c'est-à-dire les exemples qu'ils ont donnés et leurs justifications. J'essaie de creuser avec eux pour essayer de les emmener un petit peu plus loin. Quand ils me disent, par exemple, ça permet de ne pas utiliser du pétrole, bah oui, mais c'est quoi le lien entre l'utilisation du gasoil et l'environnement? Et puis, donc, il peut y avoir ce temps de correction-là tout de suite. Mais il y a beaucoup de jeux où le temps de correction, enfin la correction, le feedback vient du jeu lui-même. Par exemple, là, dans ce jeu-là, s'ils ont la mauvaise réponse, ils n'ont pas la carte. Donc en fait, cette correction, ce statut de l'erreur est hyper intéressante dans le jeu. Puisqu'en fait, l'erreur dans le jeu, elle passe elle est normale. C'est ça fait partie du jeu de se tromper, de corriger la stratégie ou la réponse pour pouvoir avancer dans le jeu. Et c'est aussi pour ça que j'aime le jeu, parce que l'erreur, c'est quelque chose qui est parfois difficile et bloquant pour certains élèves, hein, notamment en réseau d'éducation prioritaire. Je préfère ne pas faire que de se tromper, hein, ça renvoie l'image de je ne sais pas, je suis nulle. Voilà. Donc dans le jeu, il n'y a pas ce côté-là, donc ils peuvent se tromper autant qu'ils veulent. Et puis il y a d'autres temps de correction, parce que là, en fait, c'est un temps dans la séquence qui a été enregistré, capté, hein, ce temps de jeu. Mais à la fin, en fait, de chaque chapitre, on a un temps d'institutionnalisation où on fait le point sur toutes les activités que les élèves ont réalisées et on regarde qu'est-ce qu'on en extrait. Donc là, ce temps d'institutionnalisation qui sera fait avec toute la classe en même temps et non pas là où ils font dans l'ordre qu'ils veulent, les activités qu'ils veulent, on va revenir. Bah, tiens, qu'est-ce qu'on a vu comme solution pour économiser l'énergie? Tiens, est-ce qu'on arriverait à retrouver des familles et puis des exemples précis? Et puis on va en choisir. Alors, on va pas tous les corriger, mais on va en choisir certains, par exemple 2, 3, qu'on va vraiment expliciter, aller au bout de la réflexion, et c'est ça qui servira de trace écrite dans notre cahier. Donnez-moi un des exemples que vous avez retenus là dans les cartes.
Comment appelle-t-on l'énergie produite par le vent?
Comme solution, regarde. Un exemple de comportement qui permet de prendre soin de l'environnement. Qu'est-ce que tu as retenu?
Créer l'énergie...
Recycler les pièces d'un téléphone pour le
voilà. Voilà, par exemple. Recycler les pièces d'un téléphone. D'accord? Donc ça, c'est l'exemple que vous avez mis, mais après, il va falloir l'expliquer. Et du coup, ce sera les exemples que les élèves ont retenus, qu'ils ont trouvé intéressants, pertinents. Donc il y a une phase de correction. Et puis, par exemple, pour les escape games aussi, c'est important de revenir sur le jeu, parce que tous les élèves ne vont pas avoir travaillé sur toutes les énigmes, comme c'est un jeu où ils sont à plusieurs. Certains ne vont pas avoir été au bout du jeu, donc ils n'auront pas la solution à certaines. Dans ce cas-là, pour corriger, ce que je fais, c'est que je projette au tableau les différents indices, et un élève explique comment il a fait le lien et comment il a solutionné l'énigme. Puis il y a d'autres jeux où je peux utiliser des activités à manipuler. Par exemple, j'ai un petit jeu qui fonctionne un peu comme le Unlock, un escape game avec des cartes et une application. Et le but du jeu, c'est de transformer un jardin pour développer la biodiversité. Donc c'est un peu jeu façon histoire dont on est le héros. Ils ont des choix à effectuer. Ils peuvent, je sais pas, remplacer la haie avec du tuya, du grillage ou une haie qui produit des fruits. Donc il faut qu'ils choisissent qu'est-ce qui va être le plus favorable. Et à la fin, en fait, pour débriefer, ils ont différentes actions. Ils doivent classer dans favorise la biodiversité ou défavorise la biodiversité. Et au recto, ils ont le visuel de l'application qui leur dit « Ah, bonne idée, planter une haie qui fait des fruits, c'est très intéressant pour les animaux qui vont en profiter, en plus de nicher pour pouvoir s'en nourrir. » Donc comme ça, et s'ils ne se souviennent plus, ils peuvent faire... Et donc ça, je passe vérifier, si c'est bien classé, c'est bon. C'est une forme de correction. Mais je pense que... Mes élèves font toujours la correction eux-mêmes, en fait. Parce que je ne fais plus de correction en classe entière, parce que ça ne sert à rien. Enfin, mes élèves ont une capacité d'écoute extrêmement limitée. Et donc, n'écoute que ceux qui ont déjà compris, donc ça ne m'intéresse pas. Donc, la correction, c'est toujours les élèves qui l'amènent eux-mêmes. Alors, parfois, ils la font, parfois, ils ne la font pas. Mais en tout cas, la correction ne viendra pas comme ça d'un temps très formel en classe entière. Ça, je ne fais plus ça. C'est totalement inefficace. En tout cas, avec mes élèves, ça ne marche pas du tout.
Toutes ces cartes-là, qu'est-ce qu'elles présentent?
Ça parle.
Bah, les problèmes de la vie.
Bah, ouais.
Les problèmes,
les problèmes de naturel.
Les problèmes de l'environnement.
Les problèmes de la terre.
Les problèmes de l'environnement.
On est uniquement dans le cas du problème, là, avec ce jeu?
Qu'est-ce qu'on...
Les solutions. On est en train de regarder quelles solutions on peut avoir. Donc, dans la petite fiche que vous avez, pour faire le bilan du jeu, hein, vous allez avoir à compléter le petit tableau que je vous ai donné. Donc, dedans, vous voyez, on vous demande un exemple de comportement qui permet de prendre soin de l'environnement. Et expliquer son intérêt, ça veut dire, quand vous avez eu les questions et les réponses du jeu, il va falloir utiliser précisément certaines réponses des cartes pour pouvoir expliquer l'intérêt.
Tu jouais, toi, quand tu étais au collège, pendant tes heures de cours?
Non, je jouais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais maintenant, je joue. Mais voilà, je joue. Je joue à leur créer des jeux, je joue à les regarder jouer, je joue à tester des choses en classe.
Quel animal te représenterait celle que tu es durant ces séances de jeu?
J'aime bien l'idée du chat, tu vois, qui est là, qui observe et qui est prêt à bondir si jamais il y a besoin de lui, ou mettre un coup de griffe si. Voilà. Ce côté-là, assez furtif, tu vois, assez rapide, dynamique, mais en même temps, tu vois, qui est capable de se mettre sur le radiateur pendant le temps qu'il faut. Par exemple, là, voilà, pendant qu'ils jouaient, j'ai beaucoup circulé. Je suis pas allée les voir parce qu'ils étaient en train de jouer. Par contre, j'étais prête à intervenir dès qu'ils avaient terminé pour pouvoir faire ce temps de débrief. Donc, je dirais le chat, mais je sais pas.
Super, très bien. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. J'aime beaucoup vos réponses en général quand vous réussissez à trouver un animal. Et quel conseil tu donnerais à ceux et celles qui ont envie de se lancer? Le premier plus petit pas possible.
Le plus petit pas possible, déjà tester des jeux, eux, en tant que prof, en se disant, bah tiens, j'en ai vu là, je vais en tester un pour me rendre compte de ce que ça apporte, ce que ça pourrait enrichir dans ma pratique. Ne pas créer au départ, réutiliser un jeu qui fonctionne. Il y a des collègues qui partagent gratuitement. Voilà, donc réutiliser un jeu qui fonctionne, qui a été testé avec des élèves. Et puis le tester d'abord avec autre chose qu'avec des élèves, ou alors sur un temps vraiment léger en fin d'année, ou avec des élèves en club. Dans un moment où on se met pas la pression de se dire il faut que j'ai la réussite, il faut que mes élèves aient appris ça absolument, c'est super fondamental. S'ils n'ont pas ça, ils ne passent pas dans le niveau supérieur. Enfin voilà, avec de la légèreté, sans se mettre la pression. Et puis apprécier et donc recommencer, je pense. En tout cas, en général, les gens qui testent, attention, hein, c'est un engrenage. Hein. Une fois qu'on a mis le doigt dedans, on ne s'en sort plus.
Si je reprends ma question du début, jouer, est-ce vraiment sérieux? À t'écouter, oui. Et merci beaucoup, Ségolène, pour ces réponses.
Eh bien, avec plaisir. Pareil qu'au début.
Vous n'oubliez pas de rapporter les pochettes, s'il vous plaît, pour les activités.
Au revoir.
C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Docouteau, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acmé Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.